Radio Kapi. Oh, Kapi. Avec Belinda Bosuma à la présentation.
Une commission d'enquête indépendante et mixte s'avère nécessaire après les élections de décembre dernier, car de cette lumière dépend aussi l'acceptation des résultats à chaque niveau des scrutins. C'est le vœu de la CENCO et de l'ECC. Ceci est contenu dans une déclaration conjointe publiée hier à Kinshasa. 55e anniversaire des martyrs de l'indépendance, c'était hier 4 janvier, occasion pour l'écrivain André Yoka de saluer le courage et l'héroïsme des martyrs du 4 janvier 1959. Il propose que ces Congolais soient non seulement commémorés, mais également enseignés dans les écoles. Madame, Messieurs, bonjour. Les présidents de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo demandent à la CENI de faire la lumière sur tous les cas d'irrégularité documentés par les différentes parties prenantes aux élections de décembre dernier. Les deux responsables de la CENCO et de l'ECC l'ont dit dans une déclaration conjointe publiée hier jeudi intitulée « Déclaration conjointe CENCO-ECC à la suite de l'observation électorale pour la justice et la paix post-électorale ». Ils estiment qu'une commission d'enquête indépendante et mixte s'avère nécessaire car, affirme-t-il, de cette lumière dépend aussi l'acceptation des résultats à chaque niveau des scrutins. Plus de détails sur ce communiqué avec vous, Alain Rong.
Les présidents de la CENCO et de l'ECC demandent au procureur général près la Cour constitutionnelle de se saisir d'office de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin d'amener la haute juridiction de la sincérité électorale à dire le droit et redorer la fierté de la République. Ils condamnent fermement la violence aussi bien verbale que physique observée tout au long de ce présent processus. Ils demandent au procureur général de la République en sa qualité de garant de l'action publique d'ouvrir des poursuites judiciaire à l'endroit de tous les auteurs d'actes de violation et de fraude électorale. Par ailleurs, Mgr Marcel Outembi et André Bokundoa encouragent toutes les parties prenantes à recourir à des voies pacifiques pour toutes sortes de revendications. Ils invitent la CENI à honorer son engagement pris devant la nation de publier les résultats provisoires bureau de vote par bureau de vote dans le respect de la loi électorale. Enfin, ils exhortent le peuple congolais à demeurer uni et vigilant dans le combat contre les antivaleurs d'où qu'elles viennent.
Par ailleurs, au Kasaï oriental, les chefs traditionnels, membres de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Congo, demandent à tous les Congolais d'observer la paix et l'amour. Le président de cette alliance interpelle également les chefs traditionnels à être des véritables églises au milieu du village après les élections du 20 décembre dernier. Cette déclaration des autorités traditionnelles et coutumières a été faite hier au lendemain de leur marche pacifique tenue en Mbujimayi le mercredi pour saluer l'organisation des élections par la commission électorale. Écoutant à cet effet, Sa Majesté Lembale Mbakela Katwa, président national de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Congo, il est au micro d'Esther Ndalafina.
Je demande à tous les Congolais et Congolais d'observer un esprit d'amour et de paix. Je lance un message à toutes les autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Congo d'observer aussi le même esprit, parce que nous apprenons qu'il y a certains de nos collègues qui sont impliqués dans des histoires de rébellion. En tant qu'autorité traditionnelle, vous êtes une église au milieu du village. Jamais le feu ne peut sortir dans nos bouches. Nous sommes là pour donner la paix. Donnons la chance au chef de l'État de réaliser ce qu'il nous a promis. Il ne va jamais le réaliser pendant la guerre. Et pendant la guerre, on ne peut jamais développer un pays. Nous n'avons pas besoin de la guerre.
Pendant ce temps, plusieurs cas de violation des droits de l'homme documentés ont été portés à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, hier à Kinshasa. Selon le président de la CNDH qui a déposé ce rapport de monitoring, il s'agit bien de l'inventaire des cas de flagrance répertoriés par ses observateurs électoraux avant, pendant et après les élections générales du 20 décembre dernier en RDC. Paul Nsapu demande ainsi au procureur général de s'en saisir en poursuivant leurs auteurs pour qu'ils en répondent devant la justice. On écoute le président de la Commission nationale des droits de l'homme au micro de Jeff Ngoy.
d'incitation qui ont conduit aux voies de fait. Tout ce que nous avons déploré, par exemple, dans Malembankoulou comme territoire et ailleurs, Tchikapa, et tous ces cas sont recensés, monitorés pour qu'on en fasse un cas ou des cas de poursuite et d'enquête judiciaire par la justice. Aujourd'hui, donc, c'est la première étape, la remise de ce recueil-là pour des poursuites au niveau de notre justice. La grande victime, c'est la population congolaise qui a élu son candidat d'après le résultat provisoire de la commission. Mais autour des élections législatives, il y a à boire et à manger, parce que là, on a dû considérer aussi qu'il y a eu beaucoup de flagrances. Alors, nous allons continuer nos enquêtes.
Et à propos du report de la publication des résultats des élections législatives nationales et provinciales du 20 décembre 2023, la société civile de la commune de Boulengera à Butembo au Nord Kivu salue cette décision de la CENI. Selon John Kameta, président de cette structure citoyenne, ce report pourra permettre une publication générale des résultats plutôt que de le faire partiellement, une occasion pour les mandataires et témoins d'avoir des rapports complets à remettre à leur parti ou regroupement politique. Il appelle également la CENI à la sincérité. John Kameta le dit au micro de Guylaine Kassassia.
C'est une décision que nous devons saluer par le fait que dans certaines entités, on n'avait pas encore fini avec la compilation. Comment pouvez-vous vous imaginer que la CENI au niveau national puisse proclamer alors qu'au niveau local, on n'a pas encore fini avec les comptages des voix? Et donc, cela ne pouvait pas permettre à ceux-là qui pouvaient avoir des comptassiers d'avoir des éléments de preuve. À notre niveau, nous pensons que ça va aussi permettre à ce que les mandataires des différents partis, les observateurs comme les témoins de certains candidats puissent d'abord s'acquérir des voix que leur parti politique a eu au niveau de chaque entité. Et donc, ça a été vraiment une décision réfléchie, voire même pour, par exemple, la convocation électorale pour les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs, voire les sénateurs. Mais on ne peut pas postuler sans savoir celui qui a gagné des élections au niveau provincial. Mais il faut aussi dire que si on ne fait pas attention, ça peut aussi être maintenant l'occasion pour la CENI de faire des mauvais arrangements selon qu'ils sont dans des cas familiales politiques. Il faudrait que maintenant, les entités de la CENI puisse travailler avec sincérité.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, l'écrivain André Yoka salue le courage et l'héroïsme des martyrs du 4 janvier 1959. Dans un entretien accordé à Radio Capi hier jeudi, il dit que ces héros de l'histoire politique de la RDC semblent être oubliés de la génération actuelle. Il propose que ces Congolais soient non seulement commémorés, mais également enseignés dans les écoles. À cette occasion, André Yoka a également salué le combat politique mené par les leaders de l'Alliance de Bakongo à Bako de l'époque, Joseph Kasavubu, Nzenza Landou, Pinzi, Kingotolo et tant d'autres pour amener le pays à l'indépendance. André Yoka l'a dit au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Il faut que nous puissions nous remémorer ces moments-là. Il faut que les livres d'histoire reviennent sur le courage, l'héroïsme de nos pères, de nos grands-pères qui, ce jour-là, se sont levés comme un seul homme pour dire non à la colonisation et de la manière qu'il fallait. Je crois que nous ne leur rendons jamais assez hommage pour ce qu'ils ont fait. Je parle, moi, du 4 janvier 1959. Parce que le 30 juin, c'est venu après. C'est une bénédiction du 4 janvier. Et donc, je pense que les écoles, les cérémonies devaient être beaucoup plus méditatives que ce que nous faisons. Il faut reconnaître la contribution de la BACO comme étant le fer de lance de ce mouvement-là, a été déterminant pour ainsi précipiter l'indépendance du pays. Précipiter pourquoi? Parce que le 13 janvier, le roi des Belges, paniqué, fait une déclaration gouvernementale.
Parlons éducation à présent. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique, EPST, confirme pour le lundi 8 janvier 2024 la rentrée des classes au deuxième trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Pour cela, chaque directeur provincial de l'EPST est tenu de réunir son comité provincial et prendre les mesures utiles pour le respect strict du calendrier scolaire, précise Christine Nepanepa, secrétaire générale à l'EPST. Entre-temps, environ 370 enfants, dont 16 filles victimes des conflits armés en Ituri, vivent dans des conditions difficiles dans les rues de Bunia. C'est le résultat d'une enquête publiée mercredi par l'organisation Sauvons les enfants vulnérables qui intervient dans la protection des droits des enfants. Ces derniers passent la nuit devant les maisons de commerce. D'autres se livrent à la consommation des drogues et même à la prostitution, précise le coordonnateur de cette ONG. Des cas de vol impliquant ces mineurs sont aussi signalés par ses habitants inquiets. Sikouli Ramazan y demande au président de la République et au gouvernement de tout mettre en œuvre en vue de garantir l'avenir de la jeunesse. Le coordonnateur de l'ONG Sauvons les enfants vulnérables s'exprime au micro de Ezekiel Mousalia.
L'état des lieux est tellement sombre pour les enfants à Stiachouderi, à Vidébounia, puisque ce sont les enfants qui sont exposés à beaucoup de risques. C'est comme s'ils sont abandonnés à leur triste sort. Nous avions eu à identifier 374 enfants, dont 16 filles. Et voilà, avec les 16 filles, nous, à notre niveau, nous sommes dit, nous devons quand même aussi chercher à récupérer certains enfants de ces 374. Nous avions récupéré 75 enfants sur les 374. Et ces enfants commencent maintenant à se donner en vol. Ils ont commencé à se donner en viola sexuelle. Ils ont commencé à organiser des vols. Une fois vous passez la nuit dans les heures tardives, vers 19h, même ici, au niveau de la Monusco, côté marché Monique, le premier message, c'est de prendre cette situation ou de prendre ces enfants comme une priorité.
Dans l'actualité aussi, clôture hier 4 janvier à Kinshasa de la campagne de prise en charge médicale gratuite des plaies chroniques, communément appelée Mbassou, campagne réalisée par des spécialistes venus de France, assistés par un personnel médical congolais, lancée le 16 décembre dernier à Kinshasa. Cette campagne a permis au docteur Jean-Paul Lembelembe, spécialiste des plaies et cicatrisations, de consulter des dizaines de patients de l'ulcère de Bourouli et dont une partie est en bonne évolution selon lui. C'est un reportage de Jean-Désiré Kanyama, rendu par Blaise Ndongala Mayanda.
Pour docteur Jean-Paul Lembelembe, les Congolais doivent comprendre d'abord que l'ulcère de Bourouli, communément appelé Mbassou à Kinshasa, est une maladie qui guérit après traitement.
Pour traiter une plaie, il faut traiter la cause. Et quand on a identifié la cause, on a le traitement qui va et ça marche très bien.
Quelles sont alors les causes de ces plaies chroniques?
Le Mbassou, il y a plusieurs causes. Ça peut être le diabète, ça peut être les artères, ça peut être la cigarette qui donne des artérites. C'est une bactérie de la même famille que la mycobactérie de la tuberculose, la mycobactérie de la lèpre.
Dans cette équipe se trouvent aussi les techniciens français qui développent des solutions de télémédecine.
Ben, l'idée ici, ça va être de pérenniser la campagne qui a été mise en œuvre puisque le docteur Lembelembe va rentrer en France. Et avec cette solution de télémédecine, il va pouvoir continuer d'accompagner les spécialistes de la clinique afin qu'ils puissent au mieux prendre en charge leurs patients.
Cécile Nguélé est parmi les personnes ayant bénéficié de cette prise en charge.
Ça évolue. Avant, j'ai buvais, on me mettait des crèmes. Lui, il a dit non, pas des crèmes. Il me met juste une petite sparadrap là. Il y a tous les médicaments. Il y a un grand changement.
Moi, je ne veux même pas qu'il arrête, qu'il continue, puisqu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Hein.
Cette campagne se poursuit à la polyclinique Kairis, sur l'avenue Ngouma, numéro 187, dans la commune d'Engaliema.
Et selon le docteur Jean-Paul Lembelembe, enseignant à l'université de Rennes et de Nantes en France, cette campagne va se poursuivre avec un personnel médical congolais qui a bénéficié de la formation des spécialistes français, mais aussi à travers la télémédecine, autrement par une assistance médicale à distance. Direction le Congo central. Près de 2000 hectares des cultures de manioc, de maïs, arachides, bananiers et autres cultures maraîchères dans les vallées de plusieurs rivières, dont Nkokozi et Mvoisi, dans les secteurs de Boko et Kwilungongo, territoire de Mbanzangungu, sont endommagés par les inondations causées par une forte pluie qui s'est abattue sur cette contrée du 2 au 3 janvier en cours. Victor Nzuzimbembe, un des acteurs de développement de Mbanzangungu, qui livre l'information, dit qu'à l'heure actuelle, les paysans sont en train de récolter précipitamment avant la période prévue, mais malheureusement, plusieurs cultures sont déjà affectées. Ils redoutent une famine dans cette contrée et une hausse de prix de plusieurs cultures cette année dans certains centres de consommation de la province. Victor Nzuzimbembe explique au micro de Nana Plurich Mambo.
Nous avons des dégâts énormes. Le maïs, le manioc, les cultures maraîchères comme tomates, toutes ces cultures sont sous eau, même le bananier. eh bien, la récolte devait commencer en principe au mois de février, mars, jusque vers le mois de mai. Et donc là, c'est dans la précipitation qu'on doit récolter pour éviter le pourriture. Donc c'est une situation qui aura un impact très très négatif dans la mesure où même le boutir qu'on doit planter en saison B, au mois de mars et avril, nous allons manquer ce boutir parce que tout ce qu'on est en train d'arracher maintenant, ça va sécher. De même pour le semence d'arachide ou de maïs, nous aurons des problèmes parce que tous ces champs-là inondés, c'est des cultures perdues. Que les autorités viennent assister le paysan en semence et autres intrants, mais que les autorités assistent aussi le paysan en matière d'encadrement. Un encadrement par rapport à la résilience, maintenant qu'on parle du changement climatique. Et à la fin, il faudrait que les autorités assistent le paysan en matière de terres. Il n'y a pas assez de terres dans le milieu parce que toutes les terres sont occupées par des grandes entreprises qui sont dans le milieu.
Actualité internationale.
Nous sommes au Sénégal. Condamnation confirmée pour l'opposant Ousmane Sonko, inéligible à la prochaine présidentielle. La Cour suprême a confirmé jeudi la condamnation prononcée en mai dernier par la Cour d'appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation face au ministre du Tourisme, Mamemba Ndiang. L'opposant ne pourra donc pas se présenter à l'élection présidentielle du mois prochain, même si sa défense garde l'espoir d'une contre-attaque. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.